Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International. Nous allons évidemment faire le tour de cette planète football. Vous le savez, en ce moment, il se passe plein de choses un peu partout et on essaye de parler de tout. Et à commencer par cet avis de tempête sur la CAN, les favoris ou les grandes équipes tour à tour balayées de la compétition, le pays organisateur, l'Égypte de Salah, piteusement sorti, comme le Cameroun, champion en titre, le Maroc et aussi même la RDC qui n'ont pas passé les huitièmes de finale. Pourquoi cette hécatombe? En tout cas, dernier huitième de finale aujourd'hui en direct sur RFI dans une quarantaine, cinquantaine de minutes. Mali Côte d'Ivoire en direct de Suez et ensuite à 21h, Ghana Tunisie en direct d'Ismaïlia, le canal de Suez pour toile de fond aujourd'hui. Le Brésil sacré au Maracana avec une 9e Copa América, la Seleção, où a brillé un nouveau talent, le meilleur buteur Everton. Cette Seleção est-elle un champion sud-américain incontestable? La colère de Lionel Messi sème le doute sur cette victoire. Le sacre de la Dream Team en Coupe du Monde. Les Américaines ont fait main basse sur un trophée qui leur était promis. Qui pourra réussir à battre ces stars? Megan Rapinoe, Alex Morgan et Rose Lavelle dans les prochains mois. Nous nous poserons la question avec l'aide de Carlos Bianchi. Bonjour Carlos.
Bonjour à tous, bonjour Annie.
Merci d'être ici aujourd'hui avec Patrick Juillard de Foot 365 Afrique. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Naïm Moniol.
Salut, salut Annie, Naïm. Salut à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Tête sud-africaine, une deuxième tête sud-africaine et le ballon pour Welbeck. Et c'est terminé. L'Égypte est éliminée. L'Égypte dort. L'Égypte déboulonnée. L'Égypte n'ira pas plus loin. Elle s'arrête en huitième de finale. Encore une incroyable sensation dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte sortie par l'Afrique du Sud, battue 1-0 et l'Afrique du Sud n'a rien volé du tout.
Il reste 10 secondes, il reste 10 secondes et il va aller au bout de cette occasion. Passe au gol qui va venir provoquer. Il choisit au deuxième poteau, c'était pas la bonne solution. C'est dégagé, c'est fini. C'est fini à l'instant ici à Alexandrie. Le troisième huitième de finale à la couche de la victoire du Nigeria. 3-2 sur le Cameroun, un match renversant.
C'est Boumama. Il s'élance, c'est parti. Et c'est
et le et c'est
plus. Qualification du Bénin pour les quarts de finale. Historique, les écureuils. C'est Boumama, il va se diriger vers la tribune des supporters béninois. Incroyable, messieurs, incroyable. Oui. Bénin est qualifié pour les quarts de finale.
Oui, absolument.
À la fin de cette séance de tir au but, c'est Boumama, le héros des écureuils.
Voilà Yannick Bolasier qui prend son élan et qui fait face à Melvin Adrien. Il s'élance, Bolasier, il met au-dessus. Il met au-dessus. Yannick Bolasier, c'est le deuxième raté pour la RDC et il envoie Madagascar au 7e ciel. Regardez-moi tous ces Malgaches qui courent dans tous les sens et qui vont voir leur gardien. Ils sont en quart de finale dans le grand 8 continental qui l'eût cru il y a encore quelques semaines. Et la tête des Congolais, mais oui, mais fallait pas attendre 80 minutes pour jouer, messieurs. Finalement, cette victoire, cette qualification, elle est tellement méritée pour la grande île. Oh, la fête du côté de Tadaï un peu partout.
Les temps forts de cette CAN avec nos confrères de RFI que j'espère vous avez écouté tout au long du week-end. Christophe Jousset, Olivier Pron, Cédric de Oliveira et Joseph-Antoine Bell notamment. Alors le coup de tonnerre se fit évidemment l'élimination de l'Égypte, pays organisateur. Le règne des pharaons sur cette CAN s'est arrêté en huitième de finale, présenté comme des favoris de la compétition pour jouer à domicile, pour compter Mo Salah dans leur rang et aussi pour avoir été finaliste de la dernière CAN. Les Égyptiens ont été logiquement éliminés par l'Afrique du Sud. À aucun moment ils n'auront brillé dans la partie alors que 74 000 personnes dans les gradins étaient venues les encourager. Écoutez leur réaction à ces supporters au micro de Frédéric Kena à la sortie du match.
Notre élimination était prévisible vu notre pauvre niveau de jeu. On a gagné nos premiers matchs avec énormément de réussite, sans plan de jeu, sans la manière. Les responsables de ce fiasco sont la Fédération d'Égypte de football, le sélectionneur et ses choix tactiques.
Être le pays hôte et sortir dès les huitièmes de finale est honteux. L'Afrique du Sud a nettement mieux joué que l'Égypte et avait le contrôle de la partie. Bien évidemment, la Fédération égyptienne de football, les joueurs et le coach sont sont tous responsables. Je ne sais même pas qui a amené ce coach. Pour la reconstruction de notre équipe, nous avons besoin d'un coach local comme Hossam Hassan ou Hossan Al-Badri.
J'étais choqué par l'élimination, mais pas tant que ça en fait, puisque je m'y attendais à ce scénario. Même si j'avais tout de même de l'espoir qu'on puisse arriver au bout, parce que la CAN se joue chez nous, devant nos fans. L'ancien coach Cooper utilisait une tactique défensive, mais au moins ça marchait. Mais avec Aguirre, on ne sait pas si l'Égypte joue de manière défensive ou offensive. Tout ce qu'il sait faire, c'est se reposer sur Salah et Trezeguet, alors que nous avons de bons joueurs.
On l'entend, hein, il n'était pas super surpris, ses supporters qui avaient observé le jeu de leur équipe. En tout cas, juste après cette élimination, le président de la fédération égyptienne a démissionné. Et avant d'annoncer sa démission, il avait licencié Javier Aguirre, le sélectionneur, et tout son staff. Alors, on a eu cette élimination de l'Égypte. Juste avant eux, il y avait eu le Maroc face au Bénin. On a eu le Cameroun face au Nigeria, peut-être le match le plus mais le plus disputé quand même, parce
le
que c'était
le plus beau même.
En plus, puis il y a eu des buts et c'était le champion en titre certes, mais face au Nigeria. Et puis on a eu le petit poussé, hein, Madagascar qui a poussé dehors la RDC qui avait eu tant de mal à arriver en huitième de finale. Messieurs, est-ce que il y a un point commun selon vous à ces éliminations où finalement le favori ou le plus fort ne gagne pas? Naïm Mouniol.
Alors je dirais que le Cameroun à la RDC c'est un problème de jeu, l'équipe joue mal, ou alors elle joue bien mais par intermittence, et c'est pas suffisant à ce niveau-là d'une compétition internationale pour pouvoir se qualifier. Le Maroc et l'Égypte, je les mets dans un autre panier, je pense qu'il y a beaucoup plus de certitude dans le jeu, je pense que c'est des équipes qui auraient pu en plus plier le match, parce que le Maroc a eu des occasions, parce que l'Égypte, Trezeguet, a eu une énorme occasion, et que je pense qu'à un moment donné, ces équipes-là ont peut-être plus failli psychologiquement, mentalement, on a peut-être plus assisté à une équipe en absence de leader, en absence de caractère, plus qu'en absence de jeu. Voilà, face à des adversaires qui n'ont absolument pas démérité, mais qui étaient quand même plus faibles, disons-le.
Oui, vous faites un peu le distinguo entre certaines équipes.
Moi,
Patrick Juillard.
Je suis assez d'accord sur ce qu'a dit Naïm au sujet du Cameroun et de la RDC. D'abord, que le Nigeria sorte le Cameroun, c'est pas une surprise, puisque le Cameroun est certes tenant du trophée, mais le Nigeria était à la Coupe du Monde. Et rappelons que le Nigeria avait écrasé le Cameroun lors des éliminatoires du Mondial. Mmh. Donc, ça vient pas de nulle part. Sur le papier, le Cameroun a peut-être quand même encore de meilleurs joueurs que le Nigeria a de meilleurs joueurs que le Cameroun, surtout que les meilleurs joueurs camerounais comme Matip, Nkoulou et d'autres ne sont pas dans l'équipe. Bon, ça, c'est l'incident est clos, disons, pour ce match.
Oui, non, mais bon, ils n'étaient pas du tout dans la compétition, point.
Oui, voilà, mais ça explique. La RDC, effectivement, c'est une équipe qui est déjà passée par un trou de souris pour se qualifier. Et qui,
oui, parce que ça sera 4 matchs, 3 défaites.
Hein. A joué par à-coup contre Madagascar, mais l'équipe qui avait le plus de force, de certitude, c'était Madagascar.
Bien sûr.
On tire aussi mal des tirs au but que Bolassier l'a fait, on peut pas aller loin.
Oui, mais le point commun, est-ce que vous voyez un point commun à ces éliminations?
Je pense que c'est des équipes
commune.
Qui se sont toutes vues trop belles. À tort, peut-être pour effectivement le Cameroun et la RDC. Et à tort, je sais pas, mais ça, quelque chose a manqué au Cameroun et à l'Égypte et au Maroc. Après, point commun, chaque défaite a ses causes, je pense.
Du caractère, c'est vraiment sur ces deux équipes-là, c'est le manque de caractère et de leader.
Le manque d'efficacité offensive, d'attaquant de pointe, c'est-à-dire Marwan Mohsen. C'est un joueur indigne d'une équipe égyptienne. Warda, qui est rentré, il n'a pas le niveau non plus.
Oui, mais...
Et le Maroc ne comptait que sur En-Nesyri en attaque. S'il n'y a pas beaucoup de mouvement autour de lui, ce n'est pas un joueur qui peut jouer seul en pointe.
À côté de ça, l'Égypte a la Trezeguet et Salah, qui sont quand même des joueurs de grande qualité,
oui,
l'ont montré sur la phase
quand
de poule.
Quand ces joueurs-là n'ont pas l'efficacité requise et l'efficacité attendue, ça plombe
d'accord.
L'équipe. Et il
n'y
a pas de plan B, en fait.
Moi, je vais poser la question à un ancien grand joueur, mais aussi ancien grand entraîneur, Carlos Bianchi. Comment vous voulez regarder les matchs de la CAN? Comment vous analysez ou comment vous comprenez le fait que les plus faibles, vous êtes arrivé en disant ça tout à l'heure, finalement les plus faibles passent.
Oui, et je crois qu'il y a un point en commun avec la Coupe d'Amérique. Si on voit la Coupe d'Amérique, la plupart des joueurs, ils jouent à l'étranger. Et ils ont du mal quand ils jouent dans le continent. Et la plupart de ces équipes-là, qui sont les plus forts, qui ont été éliminés, la plupart de ces joueurs-là, ils jouent en Europe. Et en Europe, on les laisse réfléchir, on joue au football, on contrôle le ballon. Il n'y a pas de la malice qu'il y a au football quand on joue dans le continent. Ça arrive la même chose en Afrique qu'en Amérique. Ils sont de problèmes. Regardez-vous les grands joueurs de football qui jouent. Agüero, Messi, Jésus, Firmino, champion d'Europe. Ils se baladent pas. Ils vont en Amérique, ils se baladent pas. Et la raison, elle est quoi? Parce que, en Amérique du Sud. Parce que ils sont des joueurs qui sont pas en Europe, mais qui jouent d'une autre façon. Et ces équipes-là qui sont gagnées.
Ils ont du mal à s'adapter?
Et oui, jeu. Ils sont du mal. Ouais. Ils sont du mal parce
et
que
à la pression
en Europe,
aussi, peut-être.
En Europe, ils sont protégés, Annie. En Europe, on protège le joueur de football. Dans l'Amérique et en Afrique, on ne le protège pas. Comprends? Il y a beaucoup plus de contacts. Il y a beaucoup plus de méchanceté. Il y a beaucoup plus de malice. Ici, en Europe, on joue au football. Celui qui est plus fort, il gagne.
Mais presque un art, c'est ça? C'est-à-dire,
c'est, oui. Et en Amérique, c'est pareil.
Ouais, mais je suis pas entièrement d'accord avec ce que vous dites, Carlos. Non, mais sur le papier, vous avez raison de dire ça. Et je pense que ça peut beaucoup plus s'appliquer pour le foot sud-américain que pour le foot africain. Vous prenez l'Égypte, il y a beaucoup de joueurs qui jouent sur le continent, peut-être pas en Égypte même, mais dans des championnats à côté. C'est pareil pour.
Mais ça là, un joueur comme qu'il est, peut-être qu'il est le meilleur joueur d'Europe en ce moment.
C'est possible.
Il n'arrivait pas à faire la différence comme Messi. Il l'a fait pas en Amérique du Sud.
Oui, on a vu Ziyech aussi.
Moi, je pense aussi
alors,
que
si vous jouez pas contre des grands joueurs, vous êtes fort. Vous devez faire la différence.
Ouais, Carlos. Alors, j'abonde dans le sens de Carlos, mais pour une autre raison. Je pense que les grands joueurs, les types Ziyech, type Salah, ont eu un calendrier très chargé. Ont eu plus de matchs à jouer puisque leurs équipes sont allées beaucoup plus loin en Ligue
des Champions bah oui,
que par exemple celle des joueurs malgaches ou celle de celle des Béninois, et je pense qu'ils arrivent plus émoussés à la CAN, et peut-être que aussi ils ont moins faim parce que eux ils se battent toute la saison pour des objectifs très élevés avec leur club, type la Ligue des Champions qu'ils ont gagné
de leur championnat ou champion d'Europe.
C'est plus dur de se remettre un coup de motivation dans la tête quand arrive le mois de juin et qu'on doit jouer la CAN. C'est juste une hypothèse.
Alors moi je suis moyennement d'accord avec ça pour une raison très simple, c'est que c'est pas des faillites physiques. Le Maroc et l'Égypte, ils ont pas
un
failli
peu quand
physiquement.
Même le Maroc.
Ah bah non,
ah
non,
si,
le,
Ziyech,
non,
il était cramé. Le
Ziyech, il était peut-être
Naïm,
cramé, mais enfin, il y a pas que Ziyech dans le Maroc, il y a d'autres joueurs. Il y a quand même des joueurs.
Ziyech, c'est lui qui a plombé l'équipe en ratant un penalty à la 95e.
Ouais, je pense qu'ils se sont un peu tous plombés sur le Bénin.
Oui, mais
si on attend la 95e minute pour passer,
je suis
c'est
assez
que...
d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas des faillites physiques parce que les occasions, ils les ont. Et moi, je reviens vraiment là-dessus. Les occasions, les opportunités de tuer le match, que ce soit le Maroc contre le Bénin, l'Égypte contre l'Afrique du Sud, ils les ont ratés. Et David Fizel faisait remarquer quelque chose d'intelligent dans le début de l'émission. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une ou deux occasions pour les grosses équipes. Avant, vous ratiez une ou deux occasions, vous en avez deux, trois autres derrière. Aujourd'hui, c'est fini. Et aujourd'hui, c'est ça, moi, qui m'interpelle sur ce match, c'est qu'à partir du moment où Salah et Trezeguet ont raté,
mais justement,
ils se sont éteints. À partir du moment où on a vu les joueurs marocains se rater, ils se sont éteints. Mais pas physiquement, mentalement, psychologiquement. Je pense que l'Égypte, à aucun moment dans sa préparation d'avant-compétition, dans sa phase de poule, même dans la manière d'aborder son huitième, à aucun moment elle s'est dit « je vais me faire rentrer dedans par l'Afrique du Sud, par Motiba, par Tau, par Loche, par des types qui n'ont absolument rien montré en poule ».
Oui, mais s'ils avaient regardé les éliminatoires, ils auraient vu un match Libye-Afrique du Sud à Sfax, où c'est pas facile de jouer quand on vient d'Afrique du Sud, où l'Afrique du Sud avait donné une leçon à la Libye qui aurait pu se qualifier sur ce match. Donc attention. Ça se prépare aussi. Après, l'Égypte, pour moi, c'est ce qu'on entendait des supporters interviewés par votre correspondant. Ils disaient, cette équipe, à part jouer sur Salah et Trezeguet, elle n'a pas de plan. Une fois que dans cette équipe-là, Salah et Trezeguet ratent leur match, ne sont pas efficaces, il n'y a plus rien. Il y a pourtant des joueurs, il n'y avait pas de plan B. Et on l'a vu pareil avec la Guinée sans Naby Keïta, il n'y a plus d'équipe.
Et Carlos, ah oui, alors il n'y a plus d'équipe, mais par exemple, une équipe comme Madagascar brille sans grands joueurs.
C'est un collectif,
voilà.
C'est
alors
comme
l'Algérie. Alors que les équipes qui devraient ou qui ont des grands joueurs, bah, finalement, s'ils ne sont pas très en forme ou pas assez bien
elles
dans le collectif...
Elles s'en remettent trop aux grands joueurs.
C'est ce
parce
qu'ils
dépendent d'eux.
Et oui.
On attend que Salah il fasse la différence.
Voilà.
On attend que Mané il fasse la différence.
Et le foot, c'est un sport
alors,
d'association.
Et le football, il va finir pour gagner, c'est lui qui est le plus collectif, c'est lui qui a un style, c'est lui qui l'impose, son jeu.
Surtout sur un tournoi, regardez l'équipe de France, elle gagne la Coupe du Monde 2018 parce que collectivement, c'est l'équipe qui a été la meilleure, la plus soudée, qui a apporté les meilleures réponses aux problèmes que lui posaient ses adversaires. Après, dans la qualité de jeu pure et dans le talent individuel pur, sûr, il y avait sûrement des équipes plus fortes. Peut-être le Brésil, peut-être la Belgique. Mais collectivement, la France était au-dessus et a gagné. Et cette CAN sera gagnée par l'équipe qui, collectivement, sera la plus forte. Ce sera peut-être l'Algérie, peut-être le Nigeria, peut-être une autre. Mais c'est le collectif qui prime.
C'est effectivement ce qu'on remarque dans les tournois et dans les compétitions. Et on avait dit qu'une nouvelle compétition commençait, eh bien pour beaucoup d'équipes. Donc, ça sera à la maison que se poursuivra la compétition. On va revenir tout à l'heure au match du jour. Pour l'instant, une petite échappée vers l'Amérique du Sud, justement. La sélection du Brésil sacrée sur la pelouse du Maracana, ô combien symbolique. Comme attendu donc et comme espéré par le public, l'équipe du Brésil remporte sa 9e Copa América de son histoire. Et les Brésiliens ont brillé sans Neymar, qui était quand même là en tribune, mais avec Everton, le meilleur buteur du tournoi, avec Gabriel Jesus, avec Dani Alves désigné le meilleur joueur de cette Copa à 36 ans. Papi Alves a impressionné pendant la compétition. Carlos, vous nous disiez pratiquement depuis le début que vous pensiez que c'était le Brésil favori, non seulement parce qu'il jouait chez eux, mais aussi par le contenu de l'équipe. Vous maintenez que c'est un beau champion ?
Oui, je crois que c'est celui qui a montré beaucoup plus de jouer en équipe. Et ils sont en fond de jeu qu'il n'y a pas un autre pays qu'il a en Amérique du Sud. Et ils ont gagné bien. Et je crois que quand on parle de qu'ils ont gagné ce match-là ou l'autre match pour une raison ou une autre, je pense que globalement, Brésil était beaucoup plus fort que les autres. Mais ils ont un problème. Ils sont pas très tranquilles quand ils jouent chez eux. On dirait que des fois, ils jouent plus tranquilles quand ils jouent à l'extérieur que jouer chez eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à se libérer. C'est incroyable. Ils sont de très bons joueurs de football parce qu'ils sont très collectifs. Ils jouent tous bien.
Mais vous pensez que c'est l'exigence, la pression des supporters?
Ils sont 200 millions. Ils sont pas 40 ou 70 comme ici. Ils sont 200 millions de personnes. Et là-bas, tout le monde, il aime le football. Et alors, l'obligation de gagner, et il n'existe pas une autre chose.
C'est surtout peut-être aussi, on a le sentiment, toujours maintenant, dans ce Brésil, de compenser cette humiliation à domicile, non?
Ouais, mais c'est le passé.
Enfin, compenser,
le passé, parce qu'à tout le monde, il arrive d'avoir un faux pas chez eux.
Mais ils en parlent encore, les Brésiliens, Carlos. Ce 7-1, ça sort pas comme ça.
C'est comme si on dit Paris Saint-Germain, il peut plus en sortir de 6-1 contre Barcelone.
Ils ont fait pire.
Ou le 3-1 contre Manchester United. Le football, c'est passé.
Non, mais moi, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec Carlos. Sur l'ensemble de la Copa, le Brésil est un champion incontesté. Il y a eu des équipes qui ont fait par à coup, par instant, sur un match ou deux, jeu égal, mais sur la totalité, le Brésil était la meilleure équipe. Il n'y a qu'à voir les statistiques. 5 matchs sans encaisser de but. Le seul but encaissé en finale par ce but
penalty.
De Guerreiro sur penalty. Voilà, bon, un peu capillotracté. Rien à dire. Après, je trouve qu'il y a un vrai désamour entre le public brésilien et cette équipe, pour peut-être plusieurs raisons. Mais ça s'est ressenti. On n'a pas senti, quand on regardait les matchs, moi j'ai vu à la télé, on ne sentait pas une vague de soutien dans le public derrière son équipe. On ne sentait pas une ambiance exceptionnelle.
Il y a comme une méfiance mutuelle, on dirait.
Et y a, je crois que là, le fait que, deux choses, le fait que beaucoup, presque plus aucun joueur ne joue au pays, à part Everton, donc
oui, on en avait parlé dans Radio Foot. Hein.
Ça peut-être creuse un certain fossé entre le supporter, le peuple brésilien et l'équipe. Et aussi, alors ça, Annie, vous en savez plus que moi là-dessus, mais je pense que ça joue. Le fait que beaucoup de joueurs aient soutenu Bolsonaro, ça clive. Mmh. C'est-à-dire, ça, on peut pas avoir le soutien inconditionnel et sans réserve des gens quand on a soutenu un type comme ça dans sa campagne présidentielle. Donc
ça, voilà, ça a créé
c'est pour moi ce qui enlève un peu, qui donne un peu un goût d'inachevé à l'aspect triomphe populaire du Brésil. Quoi.
Excusez-moi, tu dis parce qu'ils sont soutenus, c'est pas les seuls les joueurs de football qui sont soutenus, plus de 50% des Brésiliens qui sont.
Non, mais on parle du soutien, mais du soutien.
Du coup, le public n'est pas derrière l'équipe autant qu'il l'aurait été, je pense.
Ils sont
mais
pas restés neutres.
Attention, que pour être président, il faut que plus de la moitié du pays.
Mais c'est parce qu'ils
j'ai
sont pas restés neutres.
J'ai pas dit qu'il était illégitime. Je dis que comme les joueurs l'ont soutenu, pour beaucoup l'ont soutenu. Certains supporters qui pensent pas comme eux, bah, ils ont plus de mal à applaudir l'équipe sans réserve.
Le président était énormément hué hier en rentrant sur la pelouse et c'était marrant, ça va se passer 3 heures après ce qui s'était passé à Lyon où on n'avait pas entendu ça contre le président Macron.
Il y a pas mal de choses qui m'ont plu avec ce Brésil sur cette Copa América. C'est que d'abord, pour la première fois depuis longtemps, il a su défendre. Et très bien défendre parce qu'il a pas surnagé dans la compétition. Il y a eu des matchs où il était en difficulté, il a toujours tenu bon. Bravo à Marquinhos et Thiago Silva. Les leaders ont été au niveau. Alors je parlais de Thiago Silva qu'on avait vu en difficulté sur les autres compétitions, vous parliez de Daniel Alves, parfait exemple. Daniel Alves, il fait une mauvaise saison avec le PSG, il est monstrueux sur la Copa América. Et troisièmement, on a vu l'émergence, peut-être pas l'émergence parce que quand on parle de garçons comme Arthur,
ouais, mais l'apparition en tout cas d'un nouveau talent
et la confirmation surtout de joueurs qu'on n'aurait pas vus. Bah, par exemple, si Neymar avait joué, je pense à Everton, je pense à Richarlison. Voilà. C'est-à-dire qu'on a vu, c'est-à-dire qu'en gros, sur cette Copa América, le Brésil n'a pas tout bien fait. Mais ce qu'il a bien fait, eh ben, on l'avait pas vu sur les compétitions précédentes. Et pas sur les 2-3 dernières, depuis 10-15 ans. Et ça, c'est quand même un sacré coup de frais sur le foot brésilien.
En tout cas, le Brésil vainqueur a-t-il été favorisé dans cette compétition par les arbitres, par la Comebol, la Confédération sud-américaine? Lionel Messi, capitaine malheureux, exclu du match en plus de la 3e place, hein, gagné heureusement par son équipe, et qui a donc terminé sur le podium. Il a répété ses accusations contre la Confédération sud-américaine, et surtout, il a préféré dire non, non, et ne pas aller chercher sa médaille de bronze.
Non. Je ne suis pas allé à la cérémonie de remise des médailles, car nous n'avons pas à faire partie de cette corruption, vu le total manque de respect à notre égard durant cette Copa. Nos deux meilleurs matchs ont été contre le Pérou et contre le Brésil. Malheureusement, je le répète, la corruption et les arbitres ne laissent pas aux gens le plaisir de profiter du spectacle. C'est préjudiciable.
Carlos Bianchi, il est mauvais perdant, Lionel Messi, ou pourquoi porte-t-il ces accusations? Il a des preuves?
Non, je ne crois pas qu'il a des preuves, mais vous savez qu'un joueur, il perd un match, des fois, tout de suite, on dit des choses que peut-être qu'avec le temps,
Mais il l'avait dit quand ils ont perdu face au Brésil, et là, il le répète après son exclusion.
Et parce qu'un col, il n'a pas géré la défaite. C'est pas la première fois qu'un joueur de football, il dit quelque chose contre l'arbitrage. Mais je pense que...
Non, mais là, c'est fort.
Mais non, le problème, c'était que quand on pense bien au match de Brésil-Argentine, l'Argentine n'a pas perdu par l'arbitre. Mais le Brésil a eu 2 occasions de but, il les a mis. L'Argentine, il l'a mis sur la traversale, sur le poteau, le gardien, il a arrêté 2-3 ballons. Alors, c'était pas la faute à l'arbitre que tu frappes sur la traversale, sur le poteau.
Il réclame de 2 pénaltys qu'il n'aurait pas eu.
Oui, mais c'est comme si hier, le pénalty de Thiago Silva, il aurait fait perdre Brésil. C'est un pénalty que tu peux siffler comme tu peux pas le siffler.
Ouais. Alors, mais le problème,
sont des choses qui passent dans un match. Des fois, c'est à ta faveur, et des fois, c'est pas à ta faveur.
Mais il a tort, Messi, alors?
Hein? Non, il le voit de ce côté-là, alors il faut l'accepter. Je crois que tout le monde, il a droit à penser ce qu'il veut. Il a le dire.
Il est rempli de frustration sur cette compétition parce que jusqu'au match contre le Brésil, il est pas bon. Son meilleur match, c'est le Brésil, il le perd. Et contre le Chili, il est expulsé alors qu'il doit pas l'être. Donc c'était vraiment une compétition qui était censée lui faire gagner un titre, essayer de le rabibocher un peu avec le public argentin, machin. Au final, c'est un échec. c'est un échec, la Copa América de Messi. Alors après, est-ce qu'il va prolonger jusque la prochaine, jusqu'à la Coupe du Monde 2022? Ça, je sais pas. Je suis pas dans sa tête pour le savoir. Mais clairement, la compétition pour Messi est un échec.
Il va prolonger, tu sais pourquoi? Parce que l'année prochaine, ça fait... Je te dis la vérité, ça m'ennuie qu'on joue tous les ans la Coupe América. À moi, mais ça m'ennuie parce que c'est pas une attraction, c'est rien.
Ça banalise tout.
Choses. C'est comme si tout le monde la chantilly tous les jours.
Oui, à la fin, t'es dégoûté.
Et à la fin, tu es dégoûté. Et là, non, c'est pareil.
Sur la corruption, je pense que le mot est fort, à moins que des preuves apparaissent, mais pour l'instant, on peut pas l'affirmer. Par contre, j'ai trouvé que cette Copa América au Brésil, en l'an 1 de Bolsonaro, il y avait quand même une atmosphère de récupération politique intense de la part des autorités brésiliennes qui était un peu malsaine et qui, moi, je trouve, ont gâché quand même le plaisir. Bolsonaro a fait son show. Un peu, ça manquait un peu de distance et de décence, je trouve. Mais ça, c'est ma perception à moi. C'est peut-être pas forcément celle de Messi.
Au détriment du football. Neymar était dans les tribunes hier et il serait bientôt, paraît-il, de retour à l'entraînement au camp des loges où l'attend Kylian Mbappé. On verra si il commencera la saison avec le PSG ou pas.
La Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019.
La belle. Lancée face à Van der Vaart.
Elle va y aller seule. Elle va y aller seule.
Elle va y aller seule.
The United States of America are crowned champions of the world. I'm a motherfucking champion. This right here, the
fucking anthem. I can't dab you without hands. Alors, cette Coupe du Monde, elle est finie en France et la Team America a décroché sa 4e étoile. Les Américaines ont logiquement remporté hier la Coupe du Monde. C'était à Lyon. Elles ont battu les filles des Pays-Bas par 2-0. Vous avez pu l'entendre sur RFI avec Eric Chorin, Martin Guez et Laura Martel. Les Oranges ont bien résisté, mais elles n'ont pas pu empêcher cette impressionnante équipe de gagner une compétition qu'elle a survolée depuis son 13-0 lors du premier match. Est-ce qu'il y a on a eu la sensation qu'il y avait un gouffre entre le jeu et le talent de ces Américaines et les autres équipes. Qui pourrait, selon vous, battre les Américaines dans les temps prochains et à court terme, je dirais, peut-être pas à attendre la prochaine Coupe du Monde, mais
une équipe européenne. Naïm. Parce que je pense qu'aujourd'hui en Amérique du Sud, c'est trop compliqué pour rivaliser. En Asie, ça me paraît.
Que certaines équipes sud-américaines, je pense aux Brésiliennes, même les Argentines.
Ouais, donc les Brésiliennes vieillissent et puis l'Argentine, le Chili. Il faudrait qu'il y ait un peu de continuité au quotidien. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là.
Et surtout d'encadrement. Oui.
L'Asie, le soufflet semble un peu retomber, parce que c'est le Japon qui traîne tout. Hein. Donc si le Japon n'est pas bon, machin. Donc l'Europe me paraît la mieux armée pour rivaliser. L'Angleterre, qui est l'équipe qui a posé le plus de problèmes, qui a un championnat compétitif, qui a des joueuses de talent, plus qu'en France, plus qu'en Allemagne aujourd'hui, disons-le. Je pense que l'Angleterre me paraît être l'équipe qui, sur du moyen terme, peut rivaliser avec les États-Unis, dont il y a quand même pas mal de joueuses qui vont s'en aller maintenant, parce que Rapinoe a quand même 33 ans, Carly Lloyd va s'en aller, il y en a quelques-unes qui vont passer la main.
On n'a pas l'impression qu'elles aient envie de partir.
Ah, qu'elles aient pas envie,
on verra.
Et
elles sont encore très compétitives quand même.
Bon, il va y avoir un renouvellement, forcément.
Forcément. Patrick?
Oui, je partage l'avis de Naïm, c'est en Europe pour moi qu'il y a la plus grande densité d'équipes de talent, de joueuses de talent.
Mais ce gouffre de différence.
Ça, pour moi, c'est plus une conséquence de l'infrastructure, de la préparation, de la qualité des entraînements,
du
côté scientifique un petit peu des choses chez les Américaines. Elles ont effectivement un énorme temps d'avance. Il faut rappeler quand même que les joueuses sont directement sous la tutelle de leur fédération et qu'elles sont programmées pour ces tournois-là. Alors qu'en Europe, elles sont libérées beaucoup plus tard par leur club et elles ont moins de temps. Il y a un aspect un peu commando en fait chez ces Américaines et c'est presque... Si on pousse un peu la comparaison, il y a presque un côté des anciens pays de l'Est dans la manière dont l'équipe est programmée pour l'événement. C'est paradoxal pour les États-Unis, mais ils ont presque nationalisé leur équipe de foot féminin.
C'est un peu comme ça que les équipes de l'hémisphère sud préparent leurs équipes de rugby.
Voilà, exactement. Et je pense que tant que l'Europe se mettra pas un petit peu plus à ce niveau-là en termes de préparation, l'écart sera dur à combler.
Carlos. Moi, je crois que la France, elle a un bon avenir. Mais la question, c'est clarifier. J'ai entendu, j'ai lu des déclarations de l'entraîneur, de Diacre, que les joueuses ne sont pas fait ce qu'il fallait faire. Ça veut dire que si on n'écoutait pas l'entraîneur...
C'est mal parti.
C'est mal parti. Parce que c'est mal parti, c'est une ambiance, je peux te l'assurer, qu'elle est moche, qu'elle n'est pas belle. Tu dois vivre avec 30 personnes tous les jours. Et quand, tu sais, quand tu parles, tu dis... Ils sont pas en train de m'écouter. Ils m'écoutent pas. Ouais. Ils vont pas faire ce que je dis.
Les retrouvailles alors, vont être difficiles. Hein.
Moi, oui, parce qu'il a critiqué les joueuses.
En public.
En public. Ouais, et ça, et le joueur, tu sais, des fois, il te le pardonne pas.
Ça va leur gâcher ses vacances.
Toujours. Ouais. C'est comme quand tu frappes les enfants devant tes enfants, tu dois pas les frapper jamais devant les autres. Quand tu rentres à la maison, tu les frappes si tu dois les frapper.
Ça reste entre le linge sale, se lave en famille. Se lave en famille.
Elle est interdite.
Non, mais si, faut réfléchir intelligemment. Ce que les États-Unis ont construit en 30 ans, l'Europe va pas le construire en 3 mois. L'Angleterre, c'est neuf. Les Pays-Bas, c'est neuf. La France, l'Allemagne, les pays scandinaves, c'est un peu plus ancien, mais ça reste quand même pas au même niveau. Donc, il faut que ça s'harmonise. Ça, c'est la postérité après qui dira. C'est avec le temps qu'on construit les choses et cette génération-là fera le travail de la suivante et peut-être même de la suivante. Mais les États-Unis, elles ont pris trop d'avance sur les Européennes.
C'est la sensation que
aujourd'hui,
ça donne,
et puis ça continue. Elles ont un championnat compétitif, oui, elles sont traitées comme des athlètes. Donc
oui, et puis on n'a pas le temps d'en parler, mais il y avait Carly Lloyd qui était la grande ancienne star, Megan Rapinoe et Alex Morgan, et là on a vu éclore une certaine Rose Lavelle, hein, de 24
Lavelle,
ans.
Vous avez Lavelle, vous avez Iss, vous avez O'Hara, vous en avez des jeunes. Il n'y a pas de souci. Hein.
On y reviendra sur quels enseignements tirer de cette Coupe du Monde féminine. Pour l'instant, et bien direction la CAN. Les derniers quarts de finale de la CAN, tout à l'heure, donc d'ici une vingtaine de minutes, un coup d'envoi sur RFI. Mais d'abord, évoquons le match de 21h, heure de Paris, ce Ghana-Tunisie, en direct d'Ismaïlia avec Frédéric Suto, Christophe Jousset, Joseph-Antoine Bell et David Kalfa pour les réseaux sociaux. Les Black Stars des frères Ayou contre les Aigles de Carthage. Un match d'où sortira l'adversaire des Malgaches. Avez-vous un favori et si oui, pourquoi? Je vous demande une réponse, on n'a pas le temps d'en débattre véritablement.
Le Ghana, parce que le Ghana vit mieux que la Tunisie actuellement.
Même chose, je pense que la Tunisie aurait en théorie les moyens de battre le Ghana, mais elle part de trop loin, elle a pas assez bien fait les choses jusque-là, il y a trop de travail à faire pour combler l'écart et le Ghana est plus sérieux et efficace depuis le début.
Même si on avait vu une Tunisie plutôt intéressante pendant la Coupe du Monde.
Ah oui, mais ça, c'était avant. C'était avec Nabil Mahloul.
Et là,
c'est plus compliqué.
Oui, on a entendu sur notre antenne autant Alain Giresse que les joueurs dire qu'ils n'avaient pas lâché l'entraîneur, mais c'est vrai que c'est compliqué.
La fédération a quand même commencé à lâcher le staff. Hein.
Oui, déjà, oui. Le préparateur mental viré en plein tournoi, c'est inédit ça.
Alors l'autre match du jour, c'est Mali-Côte d'Ivoire, dans quelques instants donc, en direct de Suez, avec Eric Mamrut, Antoine Grenier et Ndiaye Sam pour le suivi du match sur africfoot.fr. Des aigles face à des éléphants, est-ce si déséquilibré que sur le papier cette rencontre, Naïm Moniol?
Déséquilibré, non, je pense que ça va être accroché parce qu'aucune de ces deux équipes n'a séduite. Aucune de ces deux équipes ne s'est montrée au niveau de ses ambitions.
Vous êtes dur avec le Mali, Naïm?
Bah non, je trouve que le Mali n'est pas très séduisant sur cette CAN, ça ne veut pas dire qu'il va être éliminé.
C'est bien organisé, c'est sérieux.
Oui, mais enfin je ne le trouve pas super bon dans le jeu, donc voilà, je mets quand même petite pièce sur la Côte d'Ivoire qui a un secteur offensif de meilleure qualité.
Moi, c'est l'inverse, mais plutôt une pièce sur le Mali qui a jusqu'alors répondu à tous les défis que lui posaient ses adversaires au premier tour et très bien répondu. Il a su attaquer fort contre la Mauritanie, il a su très bien défendre ensuite contre la Tunisie, il a su être gestionnaire et se qualifier sans trembler contre l'Angola. Donc je pense que le Mali est un peu en avance et la Côte d'Ivoire, à part les éclairs de ses génies offensifs, pour l'instant, je suis pas convaincu.
Carlos, vous les avez
dit? Tunisie et Côte d'Ivoire.
Tunisie, Côte d'Ivoire. Vous misez sur ces deux équipes.
Tous les deux.
Pourquoi?
C'est l'inverse.
Hein?
Pourquoi?
Parce que je pense qu'ils sont montrés beaucoup plus jusque-là que les adversaires. Mais il faut voir s'ils continuent à démontrer beaucoup plus dans ces deux matchs-là.
Eh bien, c'est ce qu'on verra donc d'ici quelques instants. N'oubliez pas que nous serons en direct tout à l'heure à 23h10 heure de Paris à la fin des deux matchs, donc, et nous en parlerons de ces matchs sur RFI avec David Finzel toujours et Laurent Salerno à la réalisation, fidèle avec vous. Mais pour l'instant, eh bien, on vous laisse avec Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Annie. Moi, j'ai pas de pièce, j'en ai plus, alors je parie pas.
Voilà. Vous pariez pas. Bon, ben, en tout cas, on vérifiera tout à l'heure, hein, qui avait raison dans ses pronostics.
On peut dire qu'il a le maillot de la Côte d'Ivoire. On peut le dire aux auditeurs, ça. Hein. On peut balancer. Hein.
Non, c'est pas vrai. Non, ce que j'ai balancé, c'est mon maillot de la Guinée. Ça m'a déçu hier. Ah oui, j'adore la Guinée, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Merci à tous, et donc rendez-vous d'ici quelques secondes en direct de Suez.
En direct de la Coupe d'Afrique des Nations Total, Égypte 2019.
Mali ou Côte d'Ivoire, aigle ou éléphant, qui sera le 7e qualifié pour les quarts de finale de la CAN? La réponse, vous l'aurez en restant avec nous pour suivre ce classique ouest-africain. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Facebook Mondial Sport. J'en sélectionnerai quelques-unes au cours du match. Mais d'abord, priorité au terrain, direction le stade de Suez. Au micro, un trio, Eric Mamrut, Antoine Grenier, Joseph-Antoine Bell. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Thomas, bonjour Antoine, bonjour Joseph-Antoine.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Et bon, bienvenue ici à Suez. Bon, Antoine, vous connaissiez, hein, vous êtes venu en début de CAN. Jo, vous connaissiez les parages?
Non.
Et alors, comment non. Ça vous paraît là, d'un premier coup d'œil?
Bah, très bien, c'est un joli stade, une belle pelouse. Et
il y a du vent.
Finalement, il y a du vent, donc il ne fait pas très chaud.
Ici, il y a toujours du vent, et ça joue d'ailleurs. Ça influe lors des matchs. On va le voir peut-être encore tout à l'heure, à l'occasion de ce derby, ce classique ouest-africain Mali-Côte d'Ivoire. Duel entre voisins qui fait saliver, aigle contre éléphant. De belles équipes sur le papier, à des niveaux différents, on ne le sait pas trop en fait, à vrai dire. En tout cas, Antoine, déjà ce qu'on peut dire, c'est que il va pas y avoir une ambiance de folie, hein.
Non, quoique il y a des supporters ivoiriens qui sont allés se placer dans la tribune en face de nous, on va dire qu'ils sont 400-500 maximum.
C'est le CNSE, très large. Hein.
Et ouais. Les supporters maliens sont un tout petit peu en contrebas. Ils feront du bruit, mais effectivement, ça risque de sonner un peu creux. Les trois quarts de ce stade de Suez.
Trois quarts, vous êtes généreux.
Ah ouais. Bah, oui.
J'aurais dit 9 dixièmes.
Oui. Oui, mais après, moi, je suis moins bon en maths que vous, Eric, vous le savez. En tout cas, effectivement, c'est pas l'ambiance qui va jouer particulièrement sur la motivation des joueurs ce soir. En revanche, forcément, affronter le Mali pour la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire pour le Mali, c'est toujours un rendez-vous qu'on coche dans l'agenda. Et en espérant que la pelouse sera un petit peu moins piégeuse que lorsque j'étais venu, Eric, que vous m'aviez invité pour Mali-Mauritanie. On avait vu des rebonds curieux qui avaient un petit peu perturbé les joueurs. On va voir si ce soir la pelouse a été arrosée, retaillée peut-être pour éviter que le ballon ne s'arrête lorsqu'il rebondissait. Et que on va avoir du spectacle tout simplement,
tout cas,
parce que ça paraît, oui, on avait vu des buts à ce moment-là, merci les Maliens. Mais ce soir on va assister certainement au 8e de finale sur le papier le plus équilibré, donc le plus incertain. Quoique, ils ont tous été relativement incertains ces huitièmes de finale.
Mali-Mauritanie, c'était le début de l'aventure des aigles dans cette CAN avec un brillant succès. Donc pour commencer, 4-1, s'en est suivi un nul contre la Tunisie, puis une victoire contre l'Angola. Résultat, eh bien, le Mali a terminé premier de sa poule, une première pour les aigles depuis la CAN 2004. Donc que demander de plus? Les aigles sont présents, sont en forme, mais bon, ils affrontent donc le voisin ivoirien. Et face aux éléphants, eh bien, c'est toujours un petit peu particulier, c'est toujours spécial, et souvent ça se passe pas bien. En fait, depuis 1977, en match officiel, il n'y a plus eu de victoire malienne. C'est simple, 14 duels, aucune victoire, quelques matchs nuls par-ci par-là, 42 ans de disette. Est-ce qu'il y a une malédiction qui touche les Maliens? c'est la question. On va avoir un élément de réponse supplémentaire aujourd'hui à l'issue de cette partie. En tout cas, on a posé la question à l'un des membres de cette jeune équipe malienne, l'une des plus jeunes sur le papier de cette CAN 2019, Lassana Koulibaly. Pas de complexe en tout cas à avoir face à cette équipe ivoirienne. La malédiction, eh bien, pourquoi pas s'en débarrasser aujourd'hui. En tout cas, cette équipe des Aigles se sent bien dans son tournoi. Écoutez Lassana Koulibaly.
Un complexe, pour moi non, pas de complexe. Je pense que nous, on mettra tout pour mettre fin à cette malédiction qui est sur nous. On sait que c'est un match difficile, mais bon, de toutes les façons, depuis le début de compétition, on joue bien. Donc, je ne sais pas pourquoi on va se mettre la pression pour rien. Donc, je pense qu'on fait du bien et on va continuer sur ça. Déjà, on a un bon groupe et on a un coach, un staff qui nous fait confiance. On a confiance à eux aussi. Donc, il y a tout qui marche. Tout le monde se donne la main. Il y a l'ambiance. On s'entend bien. Tout le monde fait l'effort l'un pour l'autre. Et je ne vois pas pourquoi ça ne marchera pas. Et en plus, tout le monde peut marquer. Il n'y a pas que des attaquants qui marquent chez nous. Donc, l'équipe de Côte d'Ivoire joue bien, mais cette année, rien n'est impossible.
Joe, cette histoire de malédiction. Quand une équipe n'arrive pas depuis aussi longtemps à battre, en fait, quand une équipe est une bête noire, tout simplement, 42 ans qu'il n'y a pas de victoire, est-ce que quand même ça se transmet de génération en génération et que ça pèse à l'arrivée?
Oui, ça se transmet, mais maintenant, il faut savoir que le remède, c'est simplement ce qu'on se dit. Je l'ai rappelé, je ne sais plus où, moi quand je commençais à jouer au foot, en tout cas au niveau international, le Cameroun ne battait pas le Nigeria. Je suis allé en compétition en Algérie, mon propre cousin me disait, mais vous êtes dans la même poule que le Nigeria, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et il s'est trouvé que le match que j'ai joué moi, c'était le Nigeria. C'était la première fois, on a fait 0-0, on n'a pas pris de but, je suis revenu, t'as vu moi, je ne suis pas comme les autres. Donc le problème c'est eux, il n'y a pas de malédiction en réalité, il y a que vous ne savez pas battre une équipe parce que vous n'êtes pas au niveau. Et que, en commençant par vous dire, j'ai entendu, s'il le croit, s'il est sincère, si vous êtes bon, vous ne doutez donc pas de vous et vous mettez en place ce que vous avez à faire. Ça, parce que la malédiction fait appel à une troisième force qui n'est ni vous, ni vos adversaires. Et donc, du coup, ça veut dire que vous n'y pouvez rien. C'est quelque chose qui vous dépasse. Alors que la victoire, si elle dépend de vous, si vous croyez qu'elle dépend de vous, alors vous savez que c'est vous qui avez les moyens. Et ces moyens-là, c'est vous. Donc moi, je suis gardien de but. Je joue pour ne pas prendre de but. Mais si je comprends le foot, je sais que c'est pas moi qui prends les buts, c'est l'équipe. Donc c'est pas je ne vais pas prendre de but, c'est l'équipe ne va pas prendre de but. Donc quand il y a le ballon dans le camp adverse, je commence déjà à faire en sorte que mes attaquants défendent, nous défendons ensemble. Si nous voulons marquer des buts, les ballons partent de l'arrière. Si moi, chaque fois que j'ai le ballon, je le dégage en touche, mes partenaires, je leur diminue les chances de marquer. Donc, si je fais une première passe qui est bonne, alors la suite pourrait s'enclencher. Donc c'est comme ça. Et si chacun fait ça à son poste, vous réussirez à gagner votre match sans qu'il y ait la malédiction ni du sorcier, ni du mauvais dieu, ni du mauvais sort, ni de je sais pas quoi, ni des 42 ans. Voilà.
Et l'entraîneur malien Mohamed Magasouba a dit hier en conférence de presse, l'histoire c'est pour les historiens. La Côte d'Ivoire, Antoine. Ben, quelques incertitudes, peut-être même un peu plus que face au Mali. Quel visage a cette équipe de Côte d'Ivoire en
fait? Ben, contrairement aux Maliens, les Ivoiriens, ils ont connu la défaite dans cette CAN. Ils ont perdu contre le Maroc lors de la deuxième journée seulement. Et ben, ils ont vu que le Maroc n'était pas allé au-delà des huitièmes de finale. Donc peut-être qu'ils se disent, on peut perdre contre une grosse équipe et ne pas connaître le même sort. Et c'est ce qu'ils espèrent ce soir. Les Ivoiriens, ils avaient commencé par une petite victoire 1-0 face à l'Afrique du Sud, une réalisation de Jonathan Kodjia. Et puis ils avaient terminé en beauté avec un succès 4-1 sur la Namibie. Début de Gradel, de Serédier, de Zaha qui commence à prendre un petit peu d'ampleur sur le front de l'attaque ivoirienne dans cette compétition. Et puis un but du remplaçant Maxwell Cornet. Bref, du côté de cette équipe de Côte d'Ivoire, on a fait évidemment le plein de confiance avant d'affronter des Maliens. Et puis forcément, les Maliens, ils pensent à la malédiction qu'ils n'ont pas gagné depuis 42 ans. Les Ivoiriens, eux, ils pensent à la malédiction et ils se disent qu'ils n'ont pas perdu depuis 42 ans face à cette équipe malienne. Donc, eh ben, on va se battre pour perpétuer encore, pour continuer un petit peu cette longue série de matchs officiels face aux Aigles et sans défaite. Bref, double motivation pour cette Côte d'Ivoire et pour Ibrahim Camara, l'intérimaire qui dure à la tête de ces éléphants.
Avec les deux équipes qui viennent de rentrer sur la pelouse, et en tout cas ces éléphants se sentent un petit peu mieux depuis ce large succès face à la Namibie, 4-1, peut-être un petit peu flatteur, mais en tout cas et on respire mieux du côté de la maison des éléphants. Écoutez l'attaquant ivoirien Jonathan Kodja.
On est dans un très bon état d'esprit. Je pense qu'on a dû rectifier certaines choses entre nous. On s'est pas mal parlé, concerté. Aujourd'hui, on travaille bien.
Est-ce que la victoire large face à la Namibie a suffi à vous rassurer après le match moyen face au Maroc ?
Rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous a fait énormément de bien parce qu'il nous fallait ça pour pouvoir être un peu plus serein dans notre football. Et c'est vrai qu'après ce match-là, on a su profiter et bien se libérer la tête, donc c'est important.
Qu'est-ce qu'il faut améliorer encore pour avoir une équipe ivoirienne au top ?
Je pense que là, ça va être plus jouer dans le mental, ça va vraiment être à 100%. Parce qu'après, techniquement, je pense qu'on sait tous jouer au foot, on a tous des qualités, on a vraiment un bon effectif. Le Mali aussi, donc je pense que ça va vraiment jouer sur la détermination et sur le mental.
Affronter le Mali, c'est spécial ?
Bah, j'ai eu l'honneur de faire deux matchs de qualification contre le Mali et j'ai pu constater que c'était un match à part. Il y a beaucoup d'attentes sur ce match-là parce que, par rapport aux histoires, par rapport aux pronostics. Et donc, c'est vraiment un match qu'il faut absolument remporter. C'est comme une obligation aujourd'hui. C'est vraiment un grand, grand derby de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faudra se donner à fond pour pouvoir gagner.
Jo, votre impression pour l'instant sur cette équipe de Côte d'Ivoire ?
Je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire a eu le bonheur de gagner son dernier match largement. Dans un style qui est peut-être ce que imagine son entraîneur, c'est-à-dire que une équipe qui collectivement ne présente pas grand-chose, mais qui à tout moment, grâce à une erreur de l'adversaire, ou alors grâce au talent d'un ou la combinaison de deux joueurs, peut marquer un but. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et j'espère qu'aujourd'hui, ils auront pris conscience que les matchs ne peuvent pas toujours se gagner de cette façon-là et qu'il faudrait jouer, présenter quelque chose ensemble, avoir un petit peu d'automatisme, un petit peu de fond de jeu pour pouvoir tenir, notamment face à une équipe qui, elle, collectivement, présente plutôt quelque chose, un groupe homogène et solide. Et donc, il va falloir que les Ivoiriens puissent contenir déjà le collectif malien avant qu'éventuellement les individualités ne fassent la différence. Le premier point positif pour moi, pour la Côte d'Ivoire, c'est que l'entraîneur a remis Nicolas Pépé, parce que je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire ne peut pas avoir les moyens de se passer de Pépé. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui qui cracheraient sur Nicolas Pépé.
Allez messieurs, on va laisser les joueurs finir leur petit échauffement. On se retrouve dans une minute pour le coup d'envoi de cette rencontre.
RFI, la sélection du mois.
Événement. Fais pétiller la planète foot avec les boissons Planète. Présente dans plus de 30 pays à travers le monde, Planète, c'est un goût fruité. Des saveurs incomparables et des bulles pour un effet rafraîchissant instantané. Planète, c'est l'équipe gagnante. Savourez un monde de foot avec les boissons Planète.